Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Nous sommes au mercredi 12 juin 2024. Ils sont 11h, passé de quelques instants sur votre radio. C'est l'heure, bien sûr, de l'émission Club de la Presse. Merci de nous choisir pour ce troisième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Vitok Betomega est à la mise en onde et assure également la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différents canaux digitaux et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Lébéné. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au mercredi. Sylvestre Béni est là. Sylvestre, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
Bien passé la semaine?
Oui, ça va. Ben, on sent un début de fatigue, mais ça ira.
Ça ira, c'est l'essentiel. Fabrice Pétézi, bonjour.
Bonjour à toi, bonjour aux confrères ici présents et bonjour à tous les auditeurs.
Abel William, bonjour.
Pascal, bonjour. Bonjour à tous les confrères ici présents et bonjour à tous les branchés de Canal FM.
Abassi Saka, toujours commandant.
Oui, c'est toujours commandant.
Ça n'a pas changé de
ça
grade
va, ça évoluera après.
D'accord, c'est l'essentiel.
Bonjour à tous et à toutes qui nous suivent ce moment.
Merci d'avoir répondu à notre invitation, puisque vous savez très bien quand même que chaque mercredi, nous sommes ensemble Alain, pour ce débat sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Mais c'est toujours aussi avec des invités. Ce matin, nous avons un invité, bien sûr. Nous allons parler du recensement foncier dans les communes alors du Golfe 2 et 4. Et pour l'occasion, nous recevons Monsieur Obo. Bosso Kwami. Monsieur Bosso, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes directeur du cadastre et de la conservation foncière. C'est bien ça?
Exactement.
D'accord. Monsieur Bosso, c'est vrai que le jeudi 23 mai 2024, vous avez lancé au cours d'une conférence de presse une opération de collecte d'informations sur le foncier dans les communes du Golfe 2 et 4. Dites-nous en quoi concrètement consiste alors cette opération?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je voudrais remercier Canal FM et tout son personnel pour le soutien qu'il apporte à l'Office togolais des recettes et à la direction du cadastre de la conservation foncière en particulier. L'opération qui est lancée dans les deux communes du Golfe 2 et Golfe 4 fait suite à celle qui avait été déjà faite à Golfe 3 et à Guenivé 1 et 2 et qui consiste à collecter des informations sur les immeubles, les terrains, les propriétés bâties ou non bâties, et en vue de renforcer la sécurisation foncière.
D'accord. Alors, et pourquoi cette opération uniquement dans les communes Golfe 2 et 4?
Merci. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement dans ces deux communes, c'est un projet qui a commencé en collaboration avec le district autonome du Grand Lomé et qui devait couvrir les 13 communes du Grand Lomé, à savoir les 7 du Golfe et 6 d'Aguenivé. Et nous avions déjà, en 2022, travaillé dans la commune du Golfe 3. L'année dernière, nous avons fait la même opération à Aguenivé 1 et Aguenivé 2. Et cette année, nous avons commencé avec Golfe 2, Golfe 4. Et très prochainement, d'ici l'année prochaine, 8 autres communes restantes seront couvertes.
Concrètement, quels sont les objectifs signés à cette opération?
Merci. L'objectif ou les objectifs principaux, c'est d'abord d'identifier les immeubles bâtis et non bâtis, leur délimitation, d'identifier les propriétaires de ces immeubles et donc leur identité, ainsi que les occupants. De pouvoir collecter des informations sur la destination, c'est-à-dire à quoi sert cet immeuble. Quelle est sa consistance? Quelle est sa superficie? Qu'est-ce qu'on fait dessus? Si c'est un lot non bâti, est-ce que c'est un garage? Est-ce que c'est un jardin? Si c'est bâti, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est une habitation? Ou bien c'est des boutiques? Ou bien à usage mixte? C'est autant d'informations qui seront collectées au cours de cette opération. Et avec le district autonome de Lomé, il s'agit également de collecter des informations sur les façades des entrées pour pouvoir renforcer le projet d'adressage de la ville de Lomé. Donc, le but, c'est d'enregistrer toutes les propriétés bâties et non bâties du Grand Lomé dans le système cadastral du pays à des fins de prise de décision afin de limiter autant que possible les conflits qui peuvent survenir soit sur la délimitation des parcelles ou sur les propriétés concernées.
Mais monsieur Obosu, intéressons-nous à l'opération elle-même. Alors, comment cette opération va se dérouler et aussi quand est-ce que vous avez débuté cela?
Merci, on l'a débuté en mai passé. On l'a lancé le 23 mai passé et on a recruté des agents en collaboration avec un cabinet. Et les agents sont habillés en gilet de différentes couleurs, jaune, rouge et autres. Et ils passent de maison en maison, équipés d'une tablette et également d'un jalon ou de ce que nous appelons un décamètre qui leur permet de prendre la mesure. Et ils posent des questions aux résidents des immeubles, soit le propriétaire ou les locataires. Et donc, par moment, ils sont amenés à demander de leur montrer, votre titre foncier ou les documents ou trois tampons que vous détenez, juste à des fins de consultation. Ils ne repartent pas avec les documents.
Donc, ce qui veut dire qu'aucun agent ne demanderait à partir avec
documents. À partir avec aucun document. Il peut regarder quel nom est écrit, il relève et il vous remet le document. Il n'a pas le droit de le prendre, de l'emporter.
Mais est-ce que c'est possible quand même de prendre cela en photo, de laisser ces agents...
Normalement, non. Ce n'est pas autorisé à l'agent de prendre la photo du titre document qui lui est présenté. C'est juste pour s'assurer que ce que tu me dis, c'est vraiment ça, ou des informations complémentaires dont il aura besoin. Parce qu'il y a parfois des gens se trompent, on te dit, ton lot là, ça fait combien? Il va dire, c'est un lot. Alors que techniquement, ça n'atteint pas un lot, peut-être trois quarts de lot. Donc, l'information peut-être réelle est portée sur le plan qui se trouve dans le titre. Donc, en consultant, ça lui permet de mieux se situer. L'autre volet que je voudrais ajouter qui conditionne et qui contribue à cette opération, c'est le géoréférencement des anciens titres fonciers qui sont créés bien avant 2007. Il faut dire qu'avant 2007, c'est les coordonnées que nous appelons coordonnées locales. Et à partir de 2007, le Togo a opté pour un géoréférencement dans le système référentiel mondial. Et donc, les titres fonciers de 1970, 80 et autres, qui n'étaient pas en coordonnées GPS, cette opération consiste également à les enregistrer dans les nouvelles applications afin que nous puissions les identifier lors des prochaines immatriculations. Éviter que deux titres fonciers, par exemple, ne se retrouvent sur une même parcelle. Et donc, les agents qui passeront poseront de ces questions ou demanderont à vérifier certain nombre de pièces. Mais je le répète, ils ne repartent pas avec ces pièces et aucun frais n'est demandé à un propriétaire ou un occupant pour l'enregistrement. On ne paye rien. Et donc, si quelqu'un vous appelle pour parti-money ou par flouze, de lui envoyer l'agent, c'est agent OTS, ce n'est pas nous. C'est des anarchas qui utilisent les ruses pour détourner la vigilance de la population. Et nous les appelons à la vigilance.
D'accord, c'est très important. On appelle la population à la vigilance. Alors, monsieur Obosu, j'ai envie de vous demander à savoir quel est l'intérêt même d'ailleurs de cette opération pour les populations.
Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre à jour ou de renseigner ce que nous appelons le plan cadastral de notre pays, à commencer par le Grand Lomé. Et le plan cadastral, c'est la délimitation des parcelles et l'attribution sur chaque parcelle ou chaque bâtiment d'un propriétaire. Et donc, ces informations manquent souvent et ce que nous constatons, c'est parfois des conflits, deux ou trois personnes qui se revendiquent la même propriété ou qui se revendiquent des limites. Ils disent, ah, chez moi, ça va jusqu'ici. L'autre dit, non, ça n'atteint pas là-bas. Et nous sommes appelés parfois à donner notre avis. Et donc, pour éviter à terme ces différents conflits, l'objectif, c'est de reparcourir les quartiers pour retracer les limites, enregistrer cela dans nos systèmes informatiques pour que dès qu'il y a de cette situation, on puisse savoir tout de suite que, ah, quand on y était, voici la position du terrain et voici la personne qui avait, ou bien la personne à qui appartiennent. Nous disons que pour cette opération, ce n'est pas sûr que celui qui nous parle, c'est le vrai propriétaire. Mais nous, on les appelle dans notre jargon un propriétaire apparent. À moins que le monsieur lui-même nous présente un titre foncier abonné du fonds et que c'est lui qui nous parle, on vérifie. Là, lui, il est vraiment le propriétaire réel. Mais sans trop de preuves, nous, on recense quand même la personne qui a répondu aux questions au moment où nous sommes passés. Et il est considéré dans notre base, entre guillemets, comme un propriétaire apparent. Ça ne veut pas dire que le cadastre lui reconnaît que la parcelle l'appartient à 100%. Et en cas de conflit ou bien en cas de contrôle, d'autres services sont habilités à pouvoir déterminer cela. Et on l'a dit aux agents, ce n'est pas leur rôle d'aller trancher des conflits ou des conflits entre les gens. Des litiges, quand tu vas te dire, l'agent n'est pas habilité à vous dire vous avez raison, vous avez tort.
Est-ce que ce n'est pas ça l'objectif?
C'est les services techniques. Quand il va nous ramener les informations, quand ces informations seront enregistrées, avec les recoupements d'informations, ça peut être une décision de justice, ça peut être autre document qui nous permettrait de savoir réellement à qui pourrait appartenir cette propriété. Et donc, c'est la sécurisation foncière qui est visée. Sécuriser veut dire là où je suis, mon information, ma parcelle est dans le système informatique du cadastre pour qu'au cas où demain il y a un souci, qu'on puisse au moins se baser sur ça pour prendre les bonnes décisions.
C'est très important. Alors, c'est vrai que quand vous avez démarré cette opération, il y a d'aucuns qui déjà pensent que l'OTR a encore une idée derrière, et cette idée, c'est un recouvrement alors fiscal. Finalement, qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
Merci beaucoup. Cette opération n'est pas destinée à un recouvrement fiscal. Et je l'ai dit tantôt, aucune imposition ou aucun frais n'est demandé aux propriétaires ou occupants avant de répondre. Et nous le disons souvent, en Afrique, ce n'est pas seulement au Togo, hein. Lorsqu'on parle du cadastre ou lorsqu'on organise des opérations pour mieux situer les limites et les mieux enregistrer les propriétés, les gens ont l'idée que c'est les impôts et ils chassent les agents ou ils refusent même de collaborer. On l'a vu à Gwenny V1-2 où c'était on compris après. Et ils regrettent de n'avoir pas participé activement au départ. Parce que ils ont vu que, demain, un gros bras est venu maintenant pour revendiquer une parcelle. Ils reviennent et disent, c'était le but pour lequel on était passé. Et donc, nous appelons les gens à réserver un bon accueil aux agents, à leur fournir les informations justes. Quelque chose ne t'appartient pas, ne dis pas que c'est pour toi. Donne la bonne information. Et si vous êtes le propriétaire, il faut bien indiquer les limites de ta parcelle pour qu'on puisse bien le mesurer et l'enregistrer dans notre système. C'est pour le bien de nous tous pour demain. Et c'est dans la modernisation de tout ça que le gouvernement a mis en place de tels projets pour aider les populations à mieux sécuriser leurs propriétés, que ça soit bâti ou non. Donc, ce n'est pas des fins fiscales. À des faits fiscaux, non.
D'accord. D'accord. Alors, monsieur Obosso, si vous avez un conseil à donner aux populations, aux gens qui nous écoutent actuellement par rapport à cette opération, qu'est-ce que vous allez leur dire?
Le conseil que je voudrais donner aux populations, c'est les inviter à collaborer et à adhérer à cette opération, puisque c'est pour le bien de nous tous. Nous tous, nous savons les problèmes que nous rencontrons et il n'est pas bien que tu puisses dormir après 10 ans ou 15 ans, quelqu'un va venir dire que non, ce n'est plus chez toi, ça fait mal. Et c'est pourquoi on l'évite en collaborant, en participant activement, en donnant des bonnes informations justes aux agents et donc permettant au service du cadastre de pouvoir enregistrer cette information qui sera partagée avec les communes, puisque les communes sont les institutions qui sont devant cette opération. C'est parce que nous, on apporte jusque la technicité. Sinon, ça va aider les communes. D'abord, mieux savoir combien de parcelles se trouvent dans leur commune, combien de bâtiments inscrits dans leur commune, et sur telle parcelle, qu'est-ce qu'on fait dessus, Vous savez, aujourd'hui, je prends l'exemple du ramassage des ordures. Si on connaît le nombre de bâtiments, à peu près le nombre de populations dans un rayon de la commune, on saura aussi quel matériel il faut déployer pour pouvoir ramasser l'ordure. Là où le véhicule doit aller, on ne doit pas envoyer un tricycle. Et là où 10 ou 20 personnes sont, on va leur apporter l'infrastructure sociale nécessaire. S'ils ont besoin d'école, c'est le nombre de bâtiments ou de population qui va aider les mairies à savoir ce qu'il faut déployer. Au Togo ou dans nos villes, on nous dit qu'on n'a pas d'espace vert, par exemple. Et il n'y a pas de lieu de jardin, il fait chaud, tu peux aller t'abriter, etc. Mais quand on va faire ce genre de délimitation et qu'on va connaître la densité d'une population par rapport à certaines choses, ça peut aider les mairies à apporter des réponses adéquates. L'adressage pour la ville de Lomé est important. Aujourd'hui, pour circuler, c'est des difficultés. Tu veux aller chez quelqu'un pour t'indiquer la maison, ce n'est pas facile. Alors qu'il fallait taper seulement un petit numéro qui serait le numéro de votre maison pour que très facilement, on puisse vous atteindre, on puisse vous livrer ce que vous avez acheté en ligne, que les sapeurs-pompiers ou la gendarmerie ou la police puissent facilement venir vous sauver en cas de problème. Aujourd'hui, on le voit dans certains pays, quand il y a un sinistre ou une inondation, d'emblée on saura combien de bâtiments sont concernés par cette inondation et à peu près combien de personnes habitent. Donc voilà autant d'avantages que cette opération regorge et nous appelons la population à adhérer, mais en même temps à être vigilant pour éviter les arnaques.
Voilà, vous demandez alors l'adhésion alors de la population et aussi cette vigilance alors de la population pour ce qui concernera surtout les arnaques. Si vous avez un contact ou un numéro vert pour les populations surtout, quand en cas de difficulté, quand ils rencontrent des difficultés avec les agents, est-ce qu'il y a un contact à contacter rapidement?
Merci beaucoup. Et le contact que je vais donner sert en même temps pour ceux qui ont les anciens titres fonciers qui datent d'avant 2007 et qui veulent qu'on vienne reprendre les coordonnées. Le numéro, c'est 93 94 04 98. Je répète, 93 94 04 98. Appelez ce numéro pour mieux vous renseigner ou signaler que vous voulez que les agents passent enregistrer votre ancien titre foncier.
D'accord.
Je rappelle que cette opération de géoréférencement des anciens titres est gratuite au cours de cette opération. Sinon, en temps normal, si vous-même vous venez à nous, c'est facturé.
C'est facturé.
On va vous facturer les frais et de déplacement et tout avant de le faire.
Le mieux,
donc,
c'est
le mieux, c'est de profiter dans la zone de Dranawe et Beni Konakwe, tous ceux qui habitent ces deux communes, à le faire.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Obosu Kwami, d'être passé alors dans cette émission. Ça a été un plaisir. Je rappelle le contact, bien sûr, 93 94 04 98. 93 94 04 98. Merci d'être passé dans cette émission.
C'est moi qui vous remercie.
Alors nous revenons en studio, nous sommes au mercredi et vous comprenez que santé éducation est dans les kiosques aujourd'hui. Abel William est là avec nous. Abel, rebonjour.
Pascal, bonjour.
C'est vrai que santé éducation, je l'ai entre mes mains déjà ce matin. Et santé éducation qui parle alors surtout des questions sanitaires, bien sûr. Ce matin, vous vous titrez à la une de votre journal, Feuille du Goyavier, réguler alors la glycémie. C'est bien ça?
Exactement. Nous savons tous bien que la phytothérapie aide beaucoup et contribue beaucoup au traitement, au soulagement, à la prévention des maladies, et surtout des maladies non transmissibles. Donc, nous avons sur le marché plusieurs feuilles, feuilles de taro, feuilles de tomate, feuilles de manioc, qui ont des vertus vraiment importantes pour la santé. Et dans cette parution, nous faisons un focus sur les feuilles de goyavier, qui ont cette vertu de réguler la glycémie. Pourquoi ? Parce que dans ces feuilles, il y a des composés d'après plusieurs études prouvées, il y a des composés dans ces feuilles qui améliorent la sensibilité à l'insuline. Donc ça permet d'avoir en fait une stabilité au niveau du glucose, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Et ça permet en fait que ça réduit la production en fait du glucose par le foie, donc contribuant ainsi à maintenir la glycémie à un stade normal. Est-ce qu'on voit? Donc les feuilles de goyavier sont très efficaces pour la prévention et contribuent également au traitement du diabète. Donc nous avons proposé une recette, une tisane dans cette parution qui peuvent nous aider tous.
Voilà, c'est ce que je voulais même d'ailleurs demander, si déjà la tisane est proposée alors dans la parution, et telle que vous l'avez dit, bien sûr, la tisane est proposée ici dans la parution, et il suffit tout simplement d'avoir le journal Santé Éducation d'aujourd'hui, et vous avez en quelque sorte droit à cette tisane, bien sûr. Alors, vous parlez alors d'un autre sujet, c'est la dépression, et vous parlez des causes, symptômes et prévention, c'est ça?
Oui, exactement. On doit comprendre d'abord que la dépression, c'est une maladie. Donc, c'est une maladie et qui est caractérisée par la présence d'une humeur dépressive ou d'une perte durable de la capacité à éprouver du plaisir ou de l'intérêt. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la personne dépressive n'a aucun intérêt, n'a aucun plaisir pour tout ce qui se passe autour de lui. Donc, ça veut dire que cette maladie affecte tous les aspects de sa vie. Ça peut être familial, professionnel, scolaire. Donc, tous les aspects de sa vie est touché. Donc, on peut comprendre que tout le monde peut être dépressif.
Tout le monde.
Tout le monde peut être dépressif. Donc, c'est un article qui alerte encore sur, en fait, à prévenir cette maladie. Et déjà, ceux qui sont déjà atteints, il faut comprendre qu'il y a des soins. Cette maladie se traite, ça se soigne. On va dans un hôpital, on va dans un service psychiatrique. Il y a des soins qui sont prodigués pour les patients dépressifs. Mais ce qu'on constate, c'est que les soins sont là, mais en Afrique, et plus de 70% des personnes qui vivent dans les pays. Dans les pays.
Africains, vous le dites.
Africains, voilà. Donc, n'ont pas accès aux soins.
Oui, justement, voilà. le souci, moi, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que les Africains considèrent vraiment la dépression comme une maladie?
C'est ça, en fait. C'est pourquoi on a l'excuse sur la dépression. C'est une maladie. Donc, du moment où il y a cette perte d'intérêt de tous les aspects de la vie, attention, il faut se rendre à l'hôpital pour que on fasse diagnostiquer, pour avoir une prise en charge efficace.
Mais d'habitude, les gens pensent que c'est un malaise passager. Allez, ça va passer.
Exactement. Or que en réalité, il faut toujours diagnostiquer. C'est encore en fait une interpellation également aux autorités sanitaires et aux partenaires techniques et financiers, en fait, d'investir encore dans les soins médicaux, dans les soins de santé mentale et afin de promouvoir en fait la santé mentale dans notre pays.
Tout à fait. Voilà. Et il faut assez de sensibilisation également sur le sujet. Exactement. Pour que les uns et les autres savent que la dépression, c'est une maladie. Alors, vous vous intéressez aussi à un autre sujet, c'est la douleur ou brûlure à l'anus, et vous vous posez la question de savoir que faire.
Oui, que faire? Vous savez, les douleurs, les démangeaisons, les brûlures à l'anus, ça, des fois les gens en ont honte d'aller à l'hôpital pour aller se consulter. Or que si on laisse pendant des jours, pendant des semaines, cette douleur persister, attention, ça peut aggraver, ça peut conduire à des complications très très sévères. Donc on doit comprendre que les douleurs ou bien les brûlures, les démangeaisons à l'anus, on doit dépasser cette honte. Donc, ça peut être causé par des fissures anales, ça peut être causé par des mycoses anales, ça peut être causé par des infections, des hémorroïdes. Donc, ce qu'on recommande tout d'abord, c'est d'éviter l'automédication. Vous avez ce genre de problème, allez consulter pour une prise en charge efficace.
Et c'est très important, allez consulter pour une prise en charge. Vous vous intéressez aussi dans un autre article aux femmes, et notamment aux menstrues des femmes, et vous mettez un lien entre la couleur des menstrues et aussi l'état de santé de la femme.
Exactement, un article intéressant pour toutes nos sœurs, pour toutes nos mamans, pour toutes nos jeunes sœurs, nos femmes. On doit comprendre qu'il y a un lien entre la couleur des menstrues et l'état de santé. Et vous savez, beaucoup de femmes ne prêtent pas attention lors de leur menstruation, jusqu'à ce qu'il y a des symptômes en fait qui apparaissent, ou qui peuvent apparaître. Donc, et c'est le lieu aussi d'interpeller également nos sœurs à pouvoir comprendre que c'est important de prêter attention en fait à la couleur de nos sangs, parce que la couleur varie. La couleur des menstruations varie. Ça peut être brun, ça peut être noir, ça peut être viré au rouge, pourpre, au rouge vif. Donc, en réalité, notre état de santé également est plus à même de perturber en fait le cycle menstruel. Donc, à chaque couleur, sa signification et ses petits symptômes. Donc, tout est dans l'article. On invite les femmes à pouvoir d'acheter le journal pour comprendre en fait leur état de santé par rapport à leur menstruation.
C'est très important. Alors, le journal est à combien? Et aussi, pour avoir le PDF, comment on doit s'y prendre?
Le PDF sur notre site internet www.santé-education.tg, PDF au prix de 500 francs à télécharger sur ce site. Et la version papier est à 1000 francs, déjà dans les kiosques. Et on peut nous contacter sur les numéros 96 14 96 97, le 91 79 47 07.
Abel, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de parler santé avec vous chaque mercredi dans cette émission Club de la Presse. Et sans transition, nous restons toujours dans le domaine de la santé. Et cette fois-ci, chers confrères, nous parlons de la santé avec cette pénurie alors de personnel médical et infrastructure bien sûr inadaptée. C'est ce que écrit aujourd'hui le journal Le Bâtisseur, puisque le journal est revenu sur cette question lors de pénurie de personnel. Le journal écrit « Santé, pénurie de personnel médical et infrastructures inadaptées. Des médecins gynécologues de 19 centres de santé cessent les interventions chirurgicales. » Alors, le journal est revenu sur cet article écrit par Togo Breaking News, dont le directeur est Didier Assoba. Dans cet article, Sylvestre, on comprend tout simplement qu'il y a pratiquement 70 personnel, surtout alors des médecins gynécologues qui aujourd'hui cessent alors les activités, et il y a de cela un mois que cela se passe alors dans nos centres hospitaliers.
Non, écoutez, je crois que il y a un souci de compréhension à mon niveau, parce qu'on parle donc de pénurie et au même moment on nous dit que des gynécologues ont cessé. Donc ça veut dire qu'il y a en réalité pas de pénurie, puisqu'ils sont là, ils existent. Mais ils ont cessé de travailler. Maintenant, c'est à ce niveau-là qu'on doit savoir pourquoi ont-ils cessé de travailler. Puisque si on parle de pénurie, c'est comme si il y a aujourd'hui un manque de personnel, il y a un manque donc de gynécologues, et il y a un manque donc de médecins soignants ou de personnel soignant. En réalité, ce qu'on nous dit, c'est vrai que j'ai pas lu l'article donc des deux confrères, mais s'il y a du personnel et qui ont cessé d'activité, donc ça veut dire qu'en réalité, il y a pas de pénurie. Donc ça veut dire que c'est au niveau donc de pourquoi ils ont cessé de travailler. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on doit véritablement chercher à comprendre.
Oui.
Donc c'est vrai, j'avoue, j'ai pas lu l'article, je sais pas les causes ou du moins les motivations ou les revendications de ceux qui ont cessé de travailler. Je sais pas ce qu'il en est, donc souffrez que je ne puisse pas me prononcer
tout à fait. Je vous livre alors rapidement le chapeau alors de l'article. Le confrère dit: depuis un mois, 70 paramédicaux répartis dans 19 centres de santé ont cessé les interventions chirurgicales, mettant en évidence une grave pénurie de personnel médical. Cette décision radicale survient dans un contexte de conditions de travail de plus en plus difficiles, exacerbées par un manque criard alors de ressources humaines et des infrastructures inadaptées. Et voici in extenso l'article publié par notre confrère Togo Breaking News. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que le confrère a écrit.
Là, on comprend mieux. Là, on comprend mieux, parce que je crois que ces médecins-là reprochent au fait sur le manque d'infrastructures adaptées.
Tout à fait.
Peut-être que c'est à cause de cela qu'ils protestent et qu'ils ont cessé donc de travailler. Je crois que c'est un phénomène qu'on peut en fait généraliser. Vous allez donc dans nos hôpitaux, surtout les publics, sauf qu'on le dise, il y a un manque criard donc d'infrastructures, un manque criard donc de matériel. Vous savez, ça fait des années qu'on parle donc quoi. Ça m'échappe, monsieur. Notre le fameux voilà quoi. C'est bizarre.
Voilà les qu'est-ce que vous voulez dire,
l'AMU?
Non, c'est pas l'AMU. Bon, ça va me revenir. D'accord, donc il y a tellement donc de choses que nous avons quand même dénoncé du fait donc de manque d'infrastructures, de matériel qui n'est pas adapté et tout, mais bon, je crois que entre temps on nous a vendu donc la contractualisation, mais bon, jusqu'à l'heure où je vous parle, je crois que la contractualisation c'est presque arrêt donc à une morgue VIP que nous avons à Lomé. Nous avons une morgue VIP, mais à côté donc de la patronne donc de la maternité, c'est le jour et la nuit. Voyez-vous, donc je crois qu'il y a beaucoup de choses donc à faire en ce qui concerne donc le personnel soignant qui pendant donc depuis 2013 ont quand même un chapelet donc de revendications, mais tout cela n'évolue pas et tout. Donc je crois que il revient au gouvernant surtout au gouvernement togolais donc de mieux donc doter nos infrastructures donc du moins ça, nos soins, nos centres de santé donc de matériel et adéquat, des structures modernes et tout ça, avec un plateau technique donc de renom, comme nous avons vu récemment au Niger et tout, au Mali et tout. Donc il faudrait qu'on puisse voir ce côté-là. C'est vrai que tout récemment nous avons Dr Lafier, mais bon, je me dis combien donc de Togolais peuvent aller quand même se soigner là, surtout donc le Togolais lambda qui tire véritablement le diable à la queue. Donc au niveau donc de nos centres, mais nous sommes un peu lotis. Vous allez un peu à l'intérieur du pays, vous voyez peut-être certains CHP ou tout ça, c'est vraiment pas ça. Donc il faut véritablement une réelle politique de santé pour doter donc
d'accord. Et Fabrice, c'est vrai que dans les centres de santé c'est des vies qui sont sauvées, et il est très important quand même de mettre le personnel dans une bonne condition de travail.
Oui, je crois que c'est bien cela, parce qu'en réalité, je crois que le problème dont vous parlez, ça doit être dans le secteur public.
Tout à fait, oui.
Dans le secteur public, naturellement. Et là-bas, on attend beaucoup du gouvernement sur les questions de santé. Je crois que le plateau technique dans les structures publiques, ce n'est pas ça. Or, en réalité, quand vous observez, les gens sont beaucoup plus rassurés quand ils vont dans les hôpitaux publics. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, malgré ce qu'on dit du CHU Tocouin, par exemple, il y a des situations où la solution, vous ne pouvez que la trouver au CHU Tocouin. Parce que quoi? C'est là-bas il y a les compétences avérées. L'État ne recrute pas n'importe qui. C'est un peu comme la situation de certaines écoles privées. L'école publique ne recrute pas, enfin, l'État ne recrute pas n'importe qui pour soigner les malades. L'État ne recrute pas n'importe qui pour enseigner, donner de l'enseignement aux élèves. Mais maintenant, lorsque vous recrutez des compétences, il faut créer des conditions pour que ces compétences-là puissent vraiment être utiles. Parce que ce qu'on constate, la plupart de ces grands médecins, professeurs qui sont dans le public, la plupart offrent des prestations dans des cliniques privées où parfois c'est là-bas où il y a du matériel adéquat pour vous accueillir, c'est-à-dire vous y allez, on vous oriente ailleurs. Et je crois que c'est quand même... moi, je ne condamne pas cette situation-là, parce qu'en réalité, ce n'est pas une revendication pour dire vous revoyez peut-être nos salaires ou quelque chose comme cela. Ils parlent des conditions de travail et le matériel. Et sur ce coup, on ne peut que les soutenir, parce que c'est eux qui soignent. S'ils disent qu'ils n'ont pas le matériel adéquat, il y a de quoi à envoyer des signaux pour que peut-être le gouvernement puisse réagir. Et je crois que le ministre de la Santé doit être à l'écoute. Il y a quand même plein de projets pour essayer de revoir notre système de santé au Togo. Vivement que cette situation ne perdure pas, parce que plus ça prend, ça dure. Vous comprenez que c'est le citoyen qui paye les pots cassés, et c'est tout le monde, parce que nous sommes tous de la famille, même si c'est pas vous, vous aurez un proche forcément qui aura besoin des soins, et il faudra que ce soit garanti dans le milieu hospitalier.
Abbas, je vous livre en quelque sorte l'une des difficultés évoquées aux confrères. C'est d'abord à l'hôpital alors de Bay et de Bekuta, par exemple. Alors, les urgences chirurgicales, gynécologiques et obstétricales sont référées au CHU Sylvanus Olympio après 17 heures. La situation est presque alors la même dans 17 autres centres de l'intérieur. Je pense que c'est grave, hein?
Oui, c'est très grave. Peut-être ça, c'est un petit exemple. Peut-être dans Lomé, ici. Si je vais parler des USP à l'intérieur du pays et des centres de santé qui sont là, qui ne disposent même pas de moyens, d'infrastructures, ou lorsque vous vous trouvez en face des femmes en travail, surtout les gynécologues, en face des femmes en travail, ont des difficultés pour venir à leur secours. Et vous avez vu, entre-temps, on nous a annoncé même que c'est lorsque les femmes veulent donner naissance, qu'elles meurent. Alors qu'il y a une politique pour dire qu'une femme ne doit pas mourir en donnant une vie. Mais aujourd'hui, c'est ce manque de cria de matériel que ces gynécologues sont en train de crier. Et quand vous prenez, elles sont chargées de donner la vie. Donc on doit aussi mettre à disposition le matériel adéquat. Et ils ont parlé de pénurie, ce n'est pas une pénurie, mais c'est une insuffisance de personnel qu'il faut recruter. On voit même l'état, l'école des auxiliaires médicaux, où on forme aussi des gynécologues, et des femmes pour la santé et autres, là. Mais on peut puiser là-bas, compléter et acheter du matériel adéquat pour leur permettre de faire leur travail dans de bonnes conditions. Le cas qui a été cité dans le journal, c'est un cas que tout le monde connaît. Parce que c'est des dangers qu'on est en train de voir. Et vous allez voir qu'à tout moment, c'est les ambulances qui sont en train de se faire pour transporter d'autres de baies au CHU Sylvanus Olympio. Parce que malgré les choses, il faudrait qu'on mette l'adoption de ces gynécologues-là qui nous donnent la vie. Dans la vie même à nos enfants, des matériels bien sophistiqués pour qu'on ne vienne pas à trouver des solutions. Parce qu'il y a aussi un projet Wizou qui a été aussi institué. Et lorsqu'on met en place des projets, il faut aussi mettre les armées de matériel pour au moins accompagner tout ce qu'on dit, que ça ne soit pas des effets d'annonce comme ici et là. Donc aujourd'hui, ce qui se passe au niveau des gynécologues, et avec tout ce qui est en train de se tracer et la caricature qui a été faite, je pense que ça entre dans les oreilles des autorités en charge de la santé qui peut prendre ça en considération et venir aider. Parce que j'ai oui dire que c'est pas aujourd'hui que ces femmes-là, ces gynécologues-là ont commencé par crier.
Il y a de cela un mois
que ces alertes-là sont données. Donc il faudrait qu'on puisse venir à répondre à leurs besoins.
Mais la situation persiste. La situation est dure.
Quand les femmes, les gynécologues demandent, ce n'est pas pour eux. C'est pour sauver des. C'est pour la santé de toute la population. Ils ne demandent pas ça parce que, après tout, c'est eux qu'on va accuser qu'ils n'ont pas bien le travail, qu'ils ont laissé les gens mourir, alors que c'est le matériel qui manque.
D'accord. Alors, nous allons quitter le sujet. Sylvestre, nous allons nous intéresser à ce sujet vous avez évoqué ce matin à la une de votre journal, le journal La Machette. Vous écrivez « Tension entre le groupe Olin et les cotonculteurs, le gouvernement togolais interpellé ». C'est ça?
Oui, en réalité, je crois que ce que j'ai oublié, c'est le scanner. C'est le scanner que je voulais souligner. C'est un problème crucial que nous avions évoqué pendant des années. Mais entre-temps, je ne sais pas si la situation s'est améliorée.
Je pense que la situation s'est améliorée entre-temps.
Ah, ok. Là, vous me donnez l'information, on reste à vérifier. Alors, on revient avec les cotonculteurs, oui. Ils ont organisé une conférence le week-end où ils sont revenus sur un certain nombre de manquements. Hein, donc, de la part du partenaire technique et financier qui est le groupe OLAP. Vous savez, c'est ce partenaire-là qui a pris la filière coton, je crois, il y a 4 ans, avec une privatisation de l'État, gardant 51% de la part, le reste que l'État togolais donc a pris en charge. Et depuis là, ils ont collaboré. Et 4 années plus tard, les cotonculteurs disent que le rendement est en dessous donc des attentes. Ils reprochent également un certain nombre de manquements d'obligation. Ils ont également souligné le fait que le tonnage baisse donc d'année en année, commençant déjà avec quand le partenaire arrivé en 2020, ils étaient à 116 000 tonnes, si je crois, si j'ai la mémoire fraîche, mais de là ça dégringole jusqu'au le dernier chiffre tourne autour donc de 46 000 tonnes. Vous voyez que ça au fil donc des ans, au fil des années donc ça décroît. Donc ils demandent à l'État togolais de prendre ses responsabilités. Ils disent qu'ils sont véritablement déçus donc de Olam. Et le ton n'est plus amical, hein, parce que lorsque vous écoutez le président de la Fédération des producteurs donc du coton, lorsqu'il va jusqu'à dire qu'il faut que Olam dégage, alors ça veut dire que c'est arrivé à un moment, c'est sérieux. Et nous avons eu dire que depuis là, les lignes ont véritablement bougé. Que le gouvernement togolais, par le biais donc du département de tutelle, c'est-à-dire le ministère de tutelle, a pris quand même le dossier. Ils ont échangé donc de discuter avec les deux parties. Ils sont arrivés à un consensus hier, c'est ce que nous apprenons hier tard dans la nuit. Ce matin, normalement, on devait donc entériner les décisions, mais jusque-là, j'ai pas eu encore donc le retour, mais j'ai appris quand même qu'ils ont travaillé jusqu'à hier tard, les deux parties. Ils sont arrivés donc à un consensus. Donc on attend d'ici la fin de la journée pour que tout cela soit officialisé. Et si les deux parties sont d'accord, je crois que ils vont partir quand même sur de nouvelles bases.
Voilà. Fabrice, c'est quand on parle alors du coton au Togo, c'est un secteur quand même qui donne alors de rendement. Et il est très important quand même qu'on préserve ce secteur.
Oui, nous étions conviés également à cette conférence de presse de la FNGPC, effectivement, qui parle même d'une gestion entre guillemets hasardeuse de Olam et qui estime que pratiquement c'était mieux hier qu'aujourd'hui et qui réclame clairement la tête du groupe singapourien. Effectivement, comme mon confrère, dernière nouvelle pour parler, sont engagés en vue peut-être trouver une solution à cela, parce que le cotonculteur regroupé au sein de la FNGPC dénonçait également un aspect où par le passé il y avait un comité qui existait qui déterminait la date pour la vente du coton et tout cela. Cette fois-ci, c'est Olam seul qui s'en occupe, ça fait partie des éléments qui sont relevés. Mais comme on le dit, effectivement, samedi dernier, ils étaient très amers et ils voulaient tout de suite la tête d'Olam. Mais comme peut-être ce cri d'alarme a été lancé, je crois que ce n'est tombé dans les oreilles du sourd. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des tractations, des pourparlers qui sont en cours et on espère qu'une solution dans l'intérêt des cotonculteurs sera trouvée, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité.
C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Abbas, une gestion hasardeuse, ça veut dire que ça pourra même d'ailleurs porter toujours atteinte même d'ailleurs à la production du coton au Togo.
Oui, ça a porté préjudice à la production du coton au Togo. Vous avez vu leur déclaration, dans la déclaration des cotonculteurs, ils ont dit beaucoup de choses qui traînaient même la chute de la production de coton dans notre pays. Ils ont fait la comparaison entre avant et aujourd'hui, après la privatisation où Olam a pris les choses en main. Donc aujourd'hui, heureusement qu'ils ont vite fait de sortir, puisque même les prix qui sont fixés, c'est Olam qui fixe le prix du kilo. Alors que ce n'est pas ça, il n'y a même pas de négociation, tout comme ça devient une dature dans ce secteur, alors que c'est une négociation, ce n'est pas à 100% que vous devez faire. Vous allez discuter avec ceux-là qui produisent le coton, vous ne voulez pas leur imposer un prix que vous voulez que ça soit. Et ça a entraîné la colère de ces contributeurs. On leur donne le temps. Et avec ce cri, vous avez vu que le gouvernement a pris le dossier en main et les discussions ont démarré entre les cotonculteurs et le gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Puisqu'ils sont allés jusqu'à demander le départ du DG, et il n'a qu'à dégager. C'était trop fort, ils demandaient même qu'il n'a qu'à dégager, il n'a qu'à dégager. Donc tout ça, là, ça va porter atteinte également à la production du coton. Parce que quand les gens sont là, ils travaillent, il faut les encourager, il faut les motiver. faut pas voir parce que c'est vous qui détenez le pouvoir là et que vous leur imposez des choses qu'ils ne peuvent pas supporter. Si demain ils arrêtent de produire, est-ce que vous allez produire pour vendre vous-même? L'antre même, ce n'est plus fait par les cotonculteurs, mais c'est au-delà même qui fait tout. Donc il faudrait que les discussions là qui sont ouvertes puissent donner quelque chose de bon, or que au moins les cotonculteurs puissent aussi vivre de leurs produits. Puisque on a dit, le chef de l'État même dit, que l'agriculteur, le paysan doit vivre de ce qu'il mange et que ça soit une entreprise pour lui. Donc si quelqu'un vient de tout ce que le monsieur est en train de faire pour nourrir sa famille, pour vivre de ça, je pense qu'il faut penser à ça et trouver une solution rapide à ce problème de cotonculteur et aux lames.
Alors, nous sommes en joie alors de ce que déjà il y a une solution qui est trouvée ou qui est en train d'être trouvée hein, à ce problème entre les cotonculteurs et la société Olam. Et ça ne peut que quand même réjouir les cotonculteurs. Et nous allons quitter ce sujet. Et Sylvestre, déjà à la une de votre journal, vous êtes revenu également sur un sujet politique, bien sûr, et vous avez publié une tribune libre. Et là, vous posez la question, ou déjà dans cette tribune, vous interrogez, les députés sont-ils élus sous la 4e ou la 5e République? C'est cette question que vous vous posez, c'est ça?
Oui, en fait c'est une tribune libre donc, d'un Togolais, d'un jeune qui Togolais, et donc que nous avions trouvé bien élaboré, très, très réfléchi, parce que dans la semaine, il y a un professeur d'université, un professeur de droit, un éminent juriste, voilà, qui a fait une sortie en ce qui concerne donc la nouvelle constitution, puisque le débat s'était posé à l'Assemblée nationale s'il faut faire le règlement intérieur en se fondant sur la nouvelle constitution, et donc il prenait fait et cause justement pour ceux qui disent clairement que cela doit être donc la nouvelle constitution. Je crois qu'il a encore fait une sortie donc dans la semaine sur ce fait. Mais lorsque vous voyez un peu la manière dont les élections se sont passées, lorsque vous prenez même la convocation du corps électoral, c'est vrai que la constitution de 92, lorsque vous prenez même au niveau donc des résultats, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle s'est fondée sur la constitution donc de 92 hein, pour donner les résultats. Alors lorsque vous prenez tous ces éléments là, c'est vrai qu'il y a d'autres arguments qu'il faut. Il faut soulever. Lorsque vous prenez donc de bout en bout tous ces éléments, donc des gens qui ont été donc élus hein, sur une constitution antérieure, le corps électoral convoqué sur une constitution antérieure, même vous prenez la constitution et la nouvelle constitution en soi, ça a été promulgué après hein, ces élections-là. Lorsque vous voyez tous ces éléments mis bout en bout, donc vous conviendrez avec quoi que normalement on doit évoluer avec la constitution donc de 92. Maintenant, et sous réserve de l'article 95 de la nouvelle constitution qui donnait donc une durée de 12 mois hein, pour se mettre donc hein, dans les rouages donc de la nouvelle constitution, parce que lorsque même vous prenez l'article 96 de la nouvelle constitution, il est dit que hein, dans cet intervalle là dans les 12 mois hein, les institutions qui sont en place fonctionnent selon les dispositions de l'article 92. Il est clairement dit ça dans l'article 96. Donc, lorsque vous prenez tout ça là, donc ça veut dire que le législateur a réfléchi, il a donné un canevas en attendant qu'on arrive à la fin des 12 mois. Donc, toutes les institutions fonctionnent selon donc les dispositions de l'article 92. Bon, voilà quoi. Sauf que lui, il a dit le contraire, ce que le jeune n'a pas. Bon. Il croit véritablement que ce n'est pas ça. Il a donné également donc son opinion que nous trouvons donc tel que je l'ai dit, élaboré, réfléchi. Donc voilà quoi.
Bon, c'est cela. Fabrice, est-ce que la question se pose encore aujourd'hui?
Oui, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que quand vous voyez un peu le processus, oui, le corps électoral a été convoqué sur la base de la constitution de 92. Les députés ont été élus sur la base de cette constitution. Mais entre-temps, le 6 mai, il y a une nouvelle constitution qui a été promulguée. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les décisions qui doivent être prises seront prises sur la base de la nouvelle constitution. Mais cette nouvelle constitution ne peut pas rétroagir. C'est pour cela que le président de la République, par exemple, que nous avons aujourd'hui, il a été élu sur la base de la constitution de 1992. Et donc, il va poursuivre son mandat, s'il le veut, jusqu'à mai 2025, où il sera en fin de mandat. Et là, ce qui va suivre, ça ne sera plus la constitution de 92, mais ce sera la constitution du 6 mai, promulguée le 6 mai de 2024. C'est pour cela, à l'instant T, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale doit se faire conformément à la constitution de la 5e République. Et je crois que c'est la raison pour laquelle ça prend d'ailleurs du temps. Parce qu'en temps, il travaillait, ça doit être envoyé à la Cour constitutionnelle pour voir la conformité. Et pour chercher la conformité du test, c'est quel test? C'est le nouveau test, naturellement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui aussi, le président de la République ne peut pas nommer un premier ministre. Parce que dans la nouvelle constitution, ce poste n'existe plus. C'est-à-dire que Madame Dogbé a démissionné, elle gère les affaires courantes. Au fur et à mesure, les institutions... Mais on ne peut pas aujourd'hui prendre une décision sur la base de 1992. Mais les décisions qui avaient été prises sur la base de 1992, qui sont en cours, continuent. C'est pour cela que le chef de l'État, il continue, on continue toujours par l'appeler président de la République, puisque le poste, ça n'existe plus comme cela dans la constitution de la 5e République. Mais il n'a pas fini son mandat qu'il a démarré sous l'ancienne constitution. Et comme les juristes nous disent que la loi ne rétroagit pas, donc, au fur et à mesure, c'est un peu cela. C'est comme aujourd'hui, j'ai un procès qui date de 2016 sur la base du code de la presse et de la communication d'avant 2020, puisqu'il y a eu une modification. Mais aujourd'hui, on ne me juge pas sur la base du nouveau code. On me juge sur la base du code qui était en vigueur à l'époque des faits. Et donc, c'est pour cela, moi, je ne vois vraiment pas d'amalgame à ce niveau-là, pour moi. Et s'il y a une nouvelle décision à prendre, c'est sur la base de la nouvelle constitution. Mais les décisions qui avaient été déjà prises et qui sont en cours se poursuivent. C'est pour cela que j'ai donné l'exemple d'un premier ministre. Si on nous nomme un nouveau premier ministre, aujourd'hui, c'est anticonstitutionnel.
D'accord. Alors, Abbas, de quoi estime que déjà le corps électoral a été appelé, bien sûr, dans la constitution de 92. Et quand on prend cette constitution, et même les résultats et tout, c'est vrai que les résultats des élections, bien sûr, c'est après, et bien sûr, la promulgation alors de cette constitution, et de cette nouvelle constitution. Et donc, d'aucuns disent que mais déjà, si la logique devait être respectée, ça veut dire qu'on doit avoir encore une nouvelle législative en 2025.
Nouvelle législative.
En 2025, avant quand même qu'on ne parle. Alors, puisque cette législature, pour eux, c'est que cette législature est pour 2024.
On a sur la base de la constitution de 92. Les résultats ont été donnés sur la base de la constitution de 92.
Entre-temps, il y a une nouvelle constitution. Est-ce que en 2000, je ne sais pas, en 2000, l'élection où on a permis... aux gens, je crois que c'est les dernières législatives, non? Il y a eu une modification de constitution et les gens sont allés sur la base de la nouvelle constitution. Ça n'a... Une fois que vous êtes en fonction, si on modifie, vous faites avec. C'est un peu cela. Mais vous avez été élu sur la base, mais entre-temps, il y a un nouveau test qui est venu. Bon, pourquoi on va revenir sur l'ancien? Puisque la promulgation du nouveau test... Mais maintenant, comme je le dis, s'il y avait des actes qui avaient été pris, qui ne sont pas encore arrivés à terme, et ils vont à terme. Aujourd'hui, soit Faure démissionne pour rentrer, pour devenir le président du Conseil, s'il le veut. Mais le fait d'être encore au pouvoir en tant que président de la République sur la base de 92, pour moi, c'est normal, parce que son mandat n'est pas terminé.
Je crois que ça, à ce niveau, l'article 96 de la nouvelle constitution le prévoit. Oui, les institutions en place restent. Mais,
il faut aussi me donner la parole. On m'a donné la parole.
Justement, on te donne la parole. Vas-y.
Le problème, c'est que moi, je ne vois pas de polémique dans cette histoire. Il y a une nouvelle constitution. Et la nouvelle constitution de la 5e République a prévu des tests dans les choses transitoires.
Les dispositions transitoires
qu'on suit. j'avais fait un article par rapport à ça, au timing concernant les dispositions transitoires là, et à la fin du mandat du chef de l'État.
Tout à fait, on en avait débattu même ici au Globe de la Presse.
De ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État, Fonia Singe, ne peut plus nommer un gouvernement actuellement dans la 5e République. C'est selon l'article, la nouvelle constitution. Parce que si le nom, c'est anticonstitutionnel.
Ouais.
Ce qui veut dire que les institutions de la République qui sont là, de 92, qui sont là, vont continuer jusqu'au 5 mai 2025. Et là, ça s'arrête.
Jusqu'au 3 mai.
Jusqu'au 3 mai,
voilà.
2025. Donc, il n'y a pas de polémique à dire que on travaille sous la constitution de 92 ou bien sous la constitution de... Du moment où il y a déjà les dispositions transitoires qui régissent actuellement la vie politique du pays, on va les suivre. Parce qu'on ne peut pas dire que on va faire un règlement intérieur qui est inhérent à la constitution de 92. C'est à la constitution de... à l'avenir. La loi prévoit pour l'avenir. Donc c'est à la constitution de à la nouvelle constitution qu'il faut aller arrimer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et ça doit se faire après que le bureau même de l'Assemblée nationale soit mis en place. Ce n'est pas encore mis en place. Et ils sont en train d'étudier. Actuellement, c'est le bureau du bureau d'âge qui est en train de gérer cette situation. Donc on ne peut pas dire qu'on va revenir en arrière, arrimer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale à la constitution de 92. C'est pas logique.
Alors, c'est de ça qu'il s'agit, bien sûr, puisque tout récemment à l'Assemblée nationale, pour ce qui concerne l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il y a Mme Brigitte Adjamagbo-Johnson qui a voté contre. Et parce que, alors, ce règlement intérieur est arrimé à la nouvelle constitution. Et Sylvestre,
quand est-ce que la Cour constitutionnelle a proclamé les élections? C'est le 13, non? C'est le 13 mai.
Oui, c'est le
13 mai. La nouvelle constitution a été promulguée
le 6 mai.
Le 6 mai. Mais pourtant, la Cour constitutionnelle a évoqué les dispositions de la constitution de 92 pour proclamer les résultats.
Oui, c'est normal.
Oui, c'est normal. Non, il n'y a pas de problème.
Moi, je ne vois
pas de problème. Le processus continue. Le processus continue.
Le corps a été convoqué sur la base de la constitution de 92. Les résultats ont été proclamés sur la base de la constitution de 92.
Ouais.
Mais pourquoi voulez-vous que ceux qui ont été élus sous la constitution de 92, les dispositions de 1992, soient maintenant dans une nouvelle république ou dans une nouvelle constitution une fois qu'ils sont élus?
Alors qu'est-ce qu'ils veulent maintenant?
Non, normalement, comme les institutions là, ils doivent continuer. Maintenant, si les autres
les institutions transitoires leur demandent de continuer.
Non, c'est parce que si tu évoques les dispositions transitoires, donc évoquons donc les dispositions de l'article 96. 96 de la nouvelle constitution qui dit que les dispositions, les institutions qui sont en place continuent de fonctionner selon les dispositions de l'article 92.
Oui, mais c'est ça qui continue jusqu'en 2025.
C'est ça qui continue. Pas jusqu'en 2025, puisque l'article 95.
Non, on a dit 12 mois. Les 12 mois là, ça fait.
C'est pas obligatoire d'aller jusqu'au 12 mois.
C'est pas obligatoire.
Ne peut pas excéder les 12 mois.
Restons dans ta logique. Le règlement intérieur de l'actuelle Assemblée nationale est en train d'être fait quand?
Les députés ont été élus sur la
base
de leur élection.
Ils ont été élus,
même en restant dans la constitution de 92.
Oui.
Si on change une modification, on change un article de la constitution 92.
Ouais.
Bon, est-ce qu'on va dire que bon, parce que ces députés-là étaient élus sur la base de l'ancienne disposition, même le changement ne les engage pas?
Non, c'est pourquoi généralement dans ce contexte, on parle donc de l'article 92 révisé.
Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire tous les tests qu'on doit faire aujourd'hui, c'est-à-dire que à partir de la date de la promulgation, tous les tests qu'on doit faire vont se faire conformément
à la
nouvelle constitution. Elle est en vigueur.
La constitution
elle est en vigueur,
La même mise en vigueur donne quand même la latitude de se référer à l'ancienne.
Oui,
mais pourquoi
c'est ça la promotion transitoire.
Pour les dispositions transitoires. Lui,
donnez-lui de l'eau à boire, il s'énerve là.
D'accord.
Ça passe pas le temps. Non, pour moi, il y a vraiment, j'ai tiré des cheveux.
Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole aussi à nos auditeurs qui s'impatientent. Qui s'impatiente alors à rentrer en ligne. Alors, 22 21 33 114 91 36 73 75, c'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5 Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 73 75. Premier auditeur que nous insérons, allô? 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Basile.
Ah, comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Ah, comme ça.
D'accord.
Salut le plateau.
Mmh, le plateau vous salue aussi.
Je dis à Brice et à Basse, ils voient comment, quand une loi est anticonstitutionnelle, ça met tout, sans se dessus, tout ce qu'ils disent là-bas. Bon, nous, ici, on les écoute. Est-ce que les députés, là, en allant postuler, et c'était dit qu'ils vont venir élire un président du conseil. On doit être conséquent envers nous-mêmes. On nous a dit que la loi dispose pour l'avenir. Quand ça arrange, on utilise ce bout de balle. Quand ça n'arrange pas, on dit autre chose. Mais les députés-là n'étaient pas élus pour aller élire le président de la République. En réalité, c'est le président de la République qu'on veut élire. Ces députés n'allaient pas pour aller élire ça. Bon, comme on doit tailler la loi sur mesure, qu'est-ce que vous voulez? Mais s'il dit qu'on n'a pas été... D'ailleurs, même moi, on vous a dit, je n'ai même pas parlé de ça pour ça. Merci.
Merci Basile pour votre intervention. 22 21 33 14 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce mercredi. 22 21 33 14. Oui, madame ici, bonjour.
Bonjour. On débat de la même chose. La même chose comme je l'ai dit hier là. Et vous là-bas là, vous voulez quoi là? Compte de maire dans le quartier unique à Eternan. Hein? Pourquoi vous venez défendre le régime, les dirigeants, si on peut le dire comme ça? Vous venez les défendre pourquoi? Ils n'ont qu'à venir même du président au sous-fils, quoi. Est-ce que le président vous a une fois reçu, vous les journalistes, qui le défendent?
Madame ici, nous avons fait que l'analyse alors de l'actualité.
De l'actualité, ah,
oui, justement,
d'accord.
C'est ce qui s'est passé.
Est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est normal? Pour vous, ce qui se passe là, qu'on a une constitution que les gens refusent de lire et que tout chacun tout le temps à vie, on est dans cet état. Est-ce que c'est normal pour vous? Moi, je préfère que vous jouiez de la musique plutôt, quoi. Hein, du jazz, rock, je sais pas, du blues. Hein, la musique des opprimés. Hein. Mais arrêtez tout ça là, vous vous fatiguez aussi, quoi. Est-ce que c'est normal? On a parlé, on a des lois qui disent un mandat de 5 ans pour que les gens, pour que le pays évolue, nous aussi avec. Et pourquoi c'est pas possible? À bientôt, bye bye.
D'accord, bye bye. Merci beaucoup pour votre intervention. Ce qui est sûr, vous intervenez dans un débat que vous estimez quand même n'avoir pas lieu. Donc, ça, je pense tout simplement que vous avez exprimé votre point de vue, hein, sur cette question. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce mercredi. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est Armand.
C'est Armand, oui.
Voilà. Armand, allez-y.
Je salue tout le plateau. Et il faut dire que les échanges m'ont beaucoup édifié. Mais bon, quand les gens cherchent les poux sur la tête d'un chauve, moi, je ne sais pas Quand il y a polémique, il faut révéler les polémiques. Mais bon, quand il n'y a pas de polémique, il faut qu'on arrête de chercher des polémiques là où il n'y en a pas. Je veux parler de la Constitution, la nouvelle Constitution en place. J'aimerais aussi exhorter les autorités vraiment à se pencher sur la question de nos centres sanitaires. Il va falloir que... on sait déjà que les efforts sont faits, mais il faut vraiment discuter avec les praticiens eux-mêmes. Quels sont les défis qui leur sont... c'est-à-dire, quels défis doivent relever et leur apporter les moyens qui siègent. Parce que vraiment, c'est très important. Nous savons tous que personne ne demande à être malade, mais souvent on tombe malade. Merci.
Merci beaucoup, Armand. 22 21 33 114 91 36 63 75 c'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au club de la presse de ce mercredi après Armand. Nous avons notre auditeur. Allô.
Allô, bonjour.
Oui, disiez bonjour.
Oui, comment ça va?
Ça va, et chez vous?
Ah, alhamdoulilah.
D'accord.
Bonjour, mon pote Fabrice. Bonjour, monsieur Abbas. Allô?
Oui, oui.
Oui, mais.
Allez-y.
La dernière fois, M. Fabrice a voulu savoir si. C'est tellement que j'ai voté pour UNI. Il s'en a rassuré. Moi, je ne vais jamais voter UNI. Moi-même, je suis convaincu, je suis très sûr que tel que lui-même, il dénonce la mauvaise gestion de ce gouvernement, la gabegie, la corruption, il ne jugera pas les voter, qu'il s'est terminé à voter l'opposition. J'en suis convaincu parce qu'il ne peut pas me dire autre chose à la fois. Bon, mais pour les médecins, moi, je voulais vous dire. Ce qui se passe, vous voyez, il faut que l'État aussi, depuis la base, essaie de voir comment lutter contre ce désert de médecins qu'on dit. La plupart de nos médecins que nous formons avec nos maigres ressources-là, à la fin de leur formation, ils passent en Europe, au Canada, aux États-Unis, on les reçoit partout. Or, c'est nous qui les formons avec nos maigres de vie. Il faut que l'État, à la base même, oblige ces médecins-là, comme on le fait maintenant en Nigeria, oblige ces médecins. Même avant de rentrer à l'école de médecine, les parents, les garants signent que si vous quittez le pays, quand vous formez, vous serez automatiquement, employé au Togo ou bien à l'hôpital. Mais au cas où vous allez quitter, il faut que c'est l'État qui donne à cause de ça, que vous remboursez tout ce que nous avons déboursé pour vous former. 7 ans, 9 ans de formation, c'est pas petit. Et puis c'est nos moyens de soutenir les impôts qu'on prenait pour les former. Après, quand les Européens les prennent, et puis quand ils finissent, moi je connais plein de gens, quand ils finissent ici là, ils vont aux États-Unis, on les reçoit, ils vont au Canada, ils vont en France, c'est rapide. Il faut que l'État voit ce problème, c'est la base, pour que nous n'ayons pas de problème de pénurie de médecins chez nous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Didier pour votre intervention 22-23-314. Allô?
Non, c'est juste pour vous faire un coucou, parce que j'ai oublié de faire un coucou à Saz, à la HAC, et à Dimanche aussi, hein. Dimanche du Kodo.
Justement.
Et tout le reste, quoi. Et puis, je vais vous dire, voilà, que on vous a ôté le rêve de gouverner un jour. Donc, vous la bouclez, quoi. C'est juste pour rigoler, hein. C'est juste pour vous dire ça. Un abonnez-vous. Ciao.
Merci, Madame Issy, pour votre intervention. 22-21-3314. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est ?
Cyprien.
Cyprien, vous nous appelez oui. De quel quartier ?
Oui, monsieur Pascal.
Oui.
Oui. Bon, malheureusement, les auditeurs auront toujours à critiquer vos collègues. Hein, parce que aujourd'hui, je pense que même si l'analyse doit se faire, moi j'ai suivi un débat de constitutionnalistes qui ne sont pas d'accord entre eux. Voilà, c'est ce que je viens de suivre. Et alors que, bon, si on devait débattre de ce sujet, monsieur Fabrice ne peut pas dire que le chef de l'État, c'est pour ça qu'ils n'ont pas un Premier ministre. Il ne sait pas ce qui va se passer dans 2 semaines, dans 1 mois, jusqu'à ce que le Premier ministre démissionne et que la nouvelle constitution commence quand, début mai 2025, le chef de l'État va commencer à être président du Conseil. Donc, de ce fait-là, quand le débat est comme ça, les gens continueront toujours de taxer que certains font ceci. Tout ce qui se passe dans cette affaire de règlement intérieur, malheureusement, quand le journaliste dit « moi je ne trouve pas d'ambiguïté », ça veut dire qu'il prend déjà position de la manière dont les choses se passent. J'aurais souhaité, si vous le... je vais passer une semaine d'observation avec vous sur le plateau, écouter tout le monde jusqu'à la fin, pour que chacun puisse savoir le pourquoi les auditeurs à chaque fois indexent. pour que, bon, moi, je suis gêné qu'à la fin encore, on va dire qui veut nous donner des leçons de journalisme ici. Non, ce n'est pas bon. Soyons humbles et puissions nous écouter pour que ça soit une paix, une cohésion sociale. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon.
D'accord. Merci beaucoup. Et allez, bonne journée. 22, 21, 33, 114. Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Votre nom, c'est
Monsieur Kofi.
Monsieur Kofi. Allez-y.
Il y a un auditeur tout à l'heure qui disait que l'État devait empêcher les médecins de partir. C'est pas possible. Dans d'autres pays nantis, c'est l'État qui normalement finance les études de ces médecins ou de la plupart des étudiants. Quelqu'un ne va pas dépenser et s'investir, c'est de l'investissement d'abord. Quand on va à l'école, c'est de l'investissement. Et c'est à l'État d'investir. L'État n'investit pas. Et c'est les parents. Et après, l'État va empêcher ce médecin de partir. Il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce droit. Hein, je suis désolé de lui dire. L'État n'a pas ce droit. Si déjà nous avons, je ne sais pas, des bourses d'études à chaque fois, ou si nous avons des frais de scolarité dérisoires, d'accord, on saura que vraiment l'État investit. L'État ne veut pas investir. Je ne dis pas investir, aller créer ou aller construire des établissements. Hein. Pour ma formation, l'État doit y participer, c'est de l'investissement qu'il fait. Pour le long terme, l'État ne le fait pas. Et maintenant, l'État va me bloquer? Non. Merci.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kofi, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse à travers votre participation, bien sûr, au débat. Allô? 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 Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est?
Napo.
Monsieur Napo.
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
Oh, Adakpamé.
Adakpamé, allez-y.
Ouais, moi, je voudrais m'appréhender un peu sur le cas de la santé, là. Mm. Oui, je ne comprends pas pourquoi il y a le CEPOC qui maîtrise bien les problèmes de la santé. Pourquoi le ministre ou bien le président de la République ne veut pas appeler le CEPOC pour discuter ou bien faire les états généraux de la santé et confier la gestion ou bien les problèmes et de la santé au CEPOC. Et que chaque fois, il faut pleurer, il faut crier sur tous les toits, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. La dernière fois, moi, j'étais à la petite chirurgie, le 9, avec un malade accidenté. Il n'y a que deux infirmiers, de 23h jusqu'à 9h du matin. Et voilà les cas d'accident qui arrivent la nuit, là. On était dépassés. Donc, il faut qu'on recrute. Pourquoi? Et quand il y a le ministère de la Sécurité qui a besoin des éléments, on recrute dans la police. Maintenant, ceux qui sortent de l'ENAM, là, pourquoi on ne les intègre pas directement dans la santé? Et qu'il faut les laisser et de leur demander de passer encore un autre concours. Donc voilà, c'est un problème. Je m'arrête là.
D'accord. Merci beaucoup, M. Napo, pour votre intervention. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, M. Fabien.
Oui, votre nom, c'est... C'est M. Kossi de Sagbado. Allez-y, M. Kossi.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
D'accord. Par rapport aux infirmiers, moi je voudrais dire que d'abord, on fréquente pour l'État, pour devenir quelque chose pour l'État. Vous comprenez? On ne fréquente pas pour soi-même. Je décide de votre enfant que vous mettez à l'école, c'est pour qu'il aille à l'école pour devenir quelque chose pour la nation. C'est parce que chez nous en Afrique, et principalement au Togo, ce n'est pas le cas que nous voyons qu'on fréquente pour soi-même. Donc, quand le CA, c'est à la charge de l'État de supporter, c'est pourquoi on donne les bourses. Donc, quand tu prends la bourse, tu vas à l'extérieur, tu finis de te former, tu reviens au pays pour servir l'État. Maintenant, le malheur est qu'on craint que quand on doit revenir, on ne va pas être engagé, c'est pourquoi on souhaite rester dans le pays des Blancs. Maintenant, secondo, concernant la Constitution, jusqu'à présent, nous sommes dans un flou. On ne sait pas dans quel régime on est actuellement. Et quand on voit la chose, on fait l'analyse, c'est comme si le président est en train de passer par des contentions pour rester au pouvoir, pour rester dans un flou. C'est ça. Donc, c'est tout cela qui fait que les gens critiquent toujours cette nouvelle constitution, ce nouveau régime.
Merci beaucoup, Monsieur Kossi, pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce mercredi 22-21-314. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Ah, c'est Basile qui revient.
Ah, Basile.
Oui.
Diminuez un peu le volume de votre pouce.
Oui, oui,
à
je
côté.
Vois ça. J'ai le ce privilège de boucler, de commencer à boucler.
D'accord, justement, c'est un privilège. Allô? Allez-y, oui, c'est un privilège, allez-y.
Donc, je disais que on va se mettre d'accord entre nous. On ne peut pas se lever un beau matin, dire que c'est ce que moi je veux, c'est ce que tu dois passer. Moi, on me dit à Pyramide que je ne dois pas toujours dire ça. Pourquoi est-ce que je ne dois pas dire ça? C'est fait, c'est ce n'est pas bon. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi on va se lever un matin? Moi, je dois changer la constitution. Et je change, même si c'est anticonstitutionnel. Mais on dit de ne pas dire ça. Et est-ce que vous, là-bas, vous comprenez qu'on m'interdise de ne pas dire ça? Il faut quand même m'éclairer. Merci.
Merci beaucoup, Basile. Je n'ai pas compris le fond alors de votre question quand même. Mais ce qui est sûr, nous revenons en plateau ici alors pour conclure cette émission, faire un tour des tables, bien sûr. Merci beaucoup à vous tous et qui avez réagi les sujets débattus ici au Club de la Presse. Alors, Sylvestre, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur les sujets. C'est quoi votre réaction?
Non, je n'ai pas l'habitude donc de commenter les commentaires donc des Togolais sur leur manière de voir et de percevoir les choses. Bon, le dernier intervenant, je crois que c'est vrai que j'ai pas compris donc le fond de sa pensée, mais sur la forme, je crois il voulait faire savoir, il veut basculer un peu sur la liberté d'expression, le fait que parfois s'il faut dénoncer un certain nombre de choses, ils sont opprimés, on leur interdit et tout. Ensuite, on sait même les jeunes là, les TikTokers qu'on a arrêtés il y a quelques jours, déposés avant donc d'être libérés. C'est cela peut-être sur la forme maintenant. Et, tel que moi je l'ai dit, il faut donner donc la liberté, cette liberté d'expression à tout le monde.
Mais il y a aussi des termes appropriés à utiliser.
Oui, il faut le faire avec la manière. Ce n'est pas parce que vous avez une liberté d'expression que vous pouvez donc vous permettre tout et rien. Donc voilà. Sinon, je n'ai pas grand chose à dire sur le commentaire.
Merci beaucoup, Sylvestre. Fabrice?
Non, je crois que nous avions fait entre-temps un débat sur la position de FDR par rapport à l'Assemblée nationale. Et quand vous lisez leur document, il y a un élément peut-être qui peut aider ceux qui semblent faire la confusion sur quelle constitution utiliser. Les FDR d'Apevon ont dit tout simplement que eux, ils ne veulent pas de cette constitution de la Ve République. Et qu'aller siéger à l'Assemblée nationale va les obliger à mettre en œuvre une constitution dont ils n'en veulent pas. C'est pour cela, eux, ils ne vont pas siéger. Maintenant, quand vous, Adjamagbo, vous vous levez pour aller siéger, vous siégez en vous attendant à ce que ce soit cette constitution qui soit mise en œuvre. C'est tout simplement ça. C'est ce que nous expliquons. Soit vous n'y allez pas. C'est pour cela que je parlais de logique au niveau des FDR. C'est logique. Je ne veux pas d'une constitution. J'ai été élu. Mais, malheureusement, ceux qui voulaient de cette constitution ont la majorité. Donc, forcément, c'est cette constitution qui sera appliquée. Je n'en veux pas. Et je ne veux pas être comptable de l'application de cette constitution. Je ne vais pas siéger. Et c'est là où je dis, c'est bien beau, la logique est bien respectée. Mais est-ce que cette logique sera respectée à l'avenir? Puisque les prochaines élections qu'on aura à organiser, c'est sur la base de cette constitution. Donc, voilà pourquoi... Pour moi, il n'y a pas de polémique sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale parce que c'est la constitution de la Ve République qui est en vigueur. Et c'est ce que redoutaient ceux qui ne veulent pas siéger dans cette Assemblée nationale aujourd'hui. Donc quand vous siégez aujourd'hui, ne faites pas l'étonné quand on va vouloir dire que c'est cette constitution qui sera appliquée. Bon, maintenant, j'ai entendu des auditeurs. J'ai pas vraiment entendu ce qu'ils disaient. J'entendais mon nom, mais la voix était faible. J'ai rien écouté. Mais c'est ma logique. Enfin, c'est ce que je... Comme ils disent, manque d'humilité, je crois que c'est valable pour aussi les auditeurs, hein, parce que l'humilité, c'est une vertu que tout le monde doit partager. Moi, je n'ai pas fait le droit. J'ai pas envie de faire le... Mais je lis français. Et les articles sont écrits en français. Et la preuve, les constitutionnalistes qu'on nous brandit, on a vu le bras de fer qu'ils ont eu sur certaines dispositions de la Constitution. Tous sont allés en droit, ils sont tous sortis de la même faculté de droit. Mais on a vu comment ils ne s'entendaient pas. Moi, j'ai lu français et c'est ma compréhension.
D'accord.
Bon, peut-être que d'autres ont une autre compréhension. Je respecte cela également.
D'accord.
Peut-être que d'autres personnes qui ont fait la même faculté de français que toi.
Alors, oui, c'est pour cela que je dis ça, c'est ma compréhension.
Tout à fait.
Maintenant, si d'autres ont une autre compréhension, libre à eux.
D'accord. Alors, Abbas?
Non, c'est que chacun interprète la loi selon sa manière.
C'est pourquoi on dit la loi subjective.
Oui, la loi subjective. Il tire le droit vers son côté. Quand ça l'arrange, il dit que oui, c'est bon. Quand ça l'arrange pas, il dit que c'est mauvais. Donc c'est comme ça, c'est ça aussi le droit. Même au sein des facultés de droit, les professeurs de droit ne sont pas d'accord entre eux. Parce que ça arrange tel, ça n'arrange pas tel. Moi j'ai entendu également mon nom, des auditeurs citer mon nom, mais je sais pas, je n'ai pas compris tout ce qu'ils veulent dire. C'est qu'il faut comprendre que la constitution telle que ça est là. Nous sommes entrés, tu le veux ou pas, peut-être que tu quittes le Togo. C'est cette nouvelle constitution-là qui va te frapper. Et ceux qui refusent de siéger à l'Assemblée nationale, la nouvelle constitution régit toutes les institutions de la République. Que ce soit les conseillers régionaux, les conseillers municipaux, les sénateurs qu'on va mettre en place, qu'on va élire, c'est la même loi qui va les régir. Donc je ne sais pas comment les gens sont en train de faire. Quel que soit le cas, les prochaines élections qui auront lieu, c'est sous cette loi-là. Donc, sur cette constitution-là, donc, à eux de voir comment les choses vont se faire.
D'accord. Merci beaucoup. Sylvestre, votre note de fin d'émission, rapidement.
Note? Non, j'ai pas.
Vous n'avez pas de note. Fabrice, note de fin d'émission.
Ouais, ben, moi, j'ai un carton rouge.
Non, une note.
Oui, c'est ma note.
Non, soit donner une note, peut-être 1 sur 10.
Une note pour cette émission.
Non, pour une personnalité, pour une institution, pour bien sûr
ouais, quelque donc, chose qui se passe. Oui, la note, je donne 1,5 sur 20.
Voilà.
Et c'est objectif. Au monde du football togolais. Franchement, quand je vois les résultats des autres pays, tout le monde gagne et fait match nul. Mais nous, là, vraiment... C'est pas ça. Où est-ce que se situe le problème? C'est pour cela que je dis 1,5 sur 20 au monde du football togolais.
D'accord. Et Abbas?
Bon, moi, je donne 7 sur 10 ou 8 même sur 10 par rapport à l'éducation, au niveau de l'éducation, où les enfants aujourd'hui.
Le ministère, vous voulez dire?
Le ministère de l'éducation, c'est Cocoroco, je pense.
Tout à fait.
Où l'année s'est bien achevée et les enfants sont actuellement en examen.
En BPC.
En BPC, on souhaite que ça se poursuit de la même manière jusqu'au bac, qu'il n'y a pas de.
D'accord. Merci beaucoup, Abbas. Merci, Sylvestre. Fabrice, merci à toi et pour votre intervention dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à M. Obosu, hein, qui était entre-temps avec nous pour nous parler alors de cette opération alors sur le foncier, bien sûr, qui se déroule dans les communes alors Golf 2 et 4. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Géraud Akoucha a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Au revoir.